La victime Bruno Kandé était un acteur.
Amis sportifs, bonsoir. Merci de nous choisir. Vous êtes bien évidemment sur VOA Afrique, l'émission 16 pour Ama. Et pour m'accompagner, je suis avec Lawal Dine Kosovo. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
On prend la direction de Kinshasa où se trouve Valdo Simon Yamba Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
On vient vers vous à Medine Si. Vous êtes à Dakar au Sénégal. Bonsoir Medine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Enfin, on sera à Casablanca au Maroc pour retrouver Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Après la phase de poule, l'Euro de football entame sa phase active avec les huitièmes de finale en Afrique. On connaît les finalistes des interclubs de la CAF. Et puis, du volleyball avec les qualifiés africains pour les Jeux Olympiques qui démarrent le 23 juillet. Bienvenue à tous. L'Euro 2021 est rentré dans sa seconde phase avec les matchs à élimination directe, les huitièmes de finale. Et Valdo, ça vient de finir entre la Croatie et l'Espagne avec la victoire de la Roja après prolongation au terme d'un match fou et prolifique en but.
Élisée, un match renversant qui a connu son dénouement au-delà du temps réglementaire puisque les Croates ont tenu jusqu'au bout alors qu'ils jouaient les temps additionnels avec un but à remonter. Les visages dominateurs des Espagnols absorbés en fin de partie par le retour des Croates qui ont cru jusqu'au bout puisque menés 3-1 au dernier quart d'heure. Modric et les siens ont réussi à arracher la prolongation à 3 partout, renversant totalement le cours de cette rencontre à leur avantage. Mais il fallait passer outre lors de ces prolongation, la sérénité offensive espagnole qui a de nouveau fait parler d'elle avec notamment le but de Morata et Yardaval, l'Espagne qui s'invite en quart de finale en éliminant les vice-champions du monde. Mais qu'est-ce qui fait dur et pénible pour ces Espagnols?
À Medine, la France joue actuellement la Suisse très prudente et plus ou moins agressive.
Oui, Élisée, le match France-Suisse a démarré depuis quelques minutes. Sachez, Élisée, que c'est un match piège pour les champions du monde français. Certes, ils ont terminé à la tête du groupe F au nez et à la barbe de l'Allemagne et du Portugal, mais les Français n'ont pas été épargnés par les blessures. C'est pourquoi, d'ailleurs, le coach Didier Deschamps a changé son système de jeu pour la troisième fois, puisque aujourd'hui, le technicien français a opté pour un 3-4-1-2. Et en face, les Suisses ont mis un 5-4-1. C'est pourquoi d'ailleurs le match est très fermé. Mais les Français vont miser encore sur le trio magique. Je vous parlais de Mbappé, Griezmann et Benzema pour éviter le piège avec Élisée.
Amine, après une phase de groupe sans faute, l'Italie et la Belgique assurent par contre sa cale pour les Pays-Bas et le Portugal.
Le tenant du titre au tapis, l'Italie et la Belgique qui tiennent le rang de favoris pour l'Euro et les Pays-Bas qui échouent dans les grandes largeurs. Voilà un premier bilan de cet Euro 2020 disputé en 2021. L'Italie a cravaché dur pour battre l'Autriche, 2-1 après prolongation. On a vu une squadra azzurra très solide. L'équipe de Belgique a eu le métier, le savoir-faire et suffisamment de talent pour sortir le tenant du titre, le Portugal, grâce à un Thorgan Hazard plus étincelant que son frère Eden. Et oui, un hasard peut en chasser un autre. Et puis, les Pays-Bas qui ont failli sur toute la ligne face à la République tchèque. L'expulsion de Matthijs de Ligt a totalement chamboulé la donne lors de cette rencontre que les Néerlandais dominaient territorialement. Et aujourd'hui, nous aurons affaire à un quart de finale entre possibles outsiders danois et tchèques. Ces deux équipes ou une de ces deux nations sera appelée à jouer au trouble fait dans un Euro plein de surprises et capable de nous proposer d'autres rebondissements.
Merci Amine. Les derniers matchs de ces huitièmes de finale se jouent demain avec Suède-Ukraine et en première heure Angleterre-Allemagne. Lawal, des retrouvailles entre Anglais et Allemands.
retrouvailles effectivement entre Anglais et Allemands, et quoi qu'on dise, un grand d'Europe va rentrer à l'issue de cette rencontre. Et il faut reconnaître que l'Allemagne s'est relancée face au Portugal. Il faut reconnaître que l'Allemagne a trébuché dans le premier match et n'a pas pu se
convaincre contre la Hongrie.
Donc les Allemands ne pètent pas la grande forme de 2014 qu'on leur a connue pour le mondial brésilien. Et les Anglais, ils reviennent de très 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 loin, parce que quand on voit les statistiques un tout petit peu, les Anglais n'ont plus atteint les quarts de finale d'une compétition, ça fait un moment. Donc les Allemands sont attendus, mais ils sont vieillissants. Les Anglais également n'ont pas encore pu convaincre comme on aurait aimé. C'est vrai que Sterling a montré qu'il est encore là, mais on n'a pas encore senti la révolte de Harry Kane, on n'a pas encore senti la révolte d'un certain nombre de joueurs qu'on attendait pour cette compétition. Donc fondamentalement, les deux vont se retrouver, mais un va rentrer.
Africain à présent. Et cette information qui est tombée en milieu de semaine, Constant Omari, l'ex-président de la FECOFA a été suspendu par la FIFA. L'ancien vice-président de la CAF s'est vu interdit de toute activité liée au football, tant au niveau national qu'international, ce pendant 12 mois. Rappelons que l'homme moderne qui avait démissionné de la tête de la fédération de son pays était dans le viseur de la commission d'éthique de l'instance mondiale. Alors, Valdo, c'était prévisible, on s'y attendait.
Rien de surprenant, Élisée, pour les avertis qui, au travers cette hibernation de toute activité liée au football pendant 365 jours infligés à l'ex-président de la FECOFA, trouvent en quelque sorte la réponse sur ce qui aurait précipité sa démission à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association, quoique celle-ci était aussi considérée comme une monnaie d'échange, hein, qui a tout de même servi à atténuer cette sanction, puisque cette dernière est consécutive à un consentement mutuel conclu entre les Congolais Omari et la présidence de la chambre d'instruction de la commission d'éthique indépendante, ce qui laisse croire que l'homme s'en est tout de même bien tiré. Mais attention, d'autres, par contre, estiment que c'est de l'acharnement sur sa personne que la FIFA et la CAF ont totalement dépouillé de toutes ses fonctions avec lui, d'autres représentants congolais qui occupaient des postes à la CAF, pourvu que ce qui arrive à Omari ne puisse avoir aucune influence sur le football congolais, et ce, à tous les niveaux.
Amine, le dossier Lagardère continue de faire des victimes sans pour autant connaître une résolution.
Tout à fait, le dossier Lagardère n'a pas fini d'éclabousser les dirigeants du football africain. Il y a eu bien évidemment la signature de ce contrat léonin de 12 ans, puis sa rupture unilatérale, puis les avantages inhérents au moment de la signature du contrat. Tout cela est en train d'éclabousser plusieurs dirigeants du football africain. Constant Omari en est le dernier. Il a été sanctionné par la FIFA pour justement ses accointances ou ce conflit d'intérêts. 12 mois sans être lié à la pratique du football. Évidemment, il avait eu vent de la chose et avait anticipé sa démission 48 heures avant. Et visiblement, il met entre parenthèses sa carrière, espérant peut-être être réhabilité. Il ne fera pas appel, mais pourra peut-être rebondir un jour ou l'autre, puisqu'en Afrique, on est souvent amnésique et le pardon arrive très très vite.
Ahmedine Sy, comme Ahmad Ahmad, la FIFA souffre aussi Constant Omari qu'il avait déjà écarté lors des dernières élections au niveau de la CAF.
Tout à fait, Élisée. L'ancien président de la Fédération congolaise de football devra aussi s'acquitter d'une amende de 66 000 euros, soit près de 43 millions de francs CFA. Il faut dire, Élisée, que ces sanctions font suite à une procédure d'introduction formelle ouverte le 7 janvier dernier au sujet des avantages reçus de la part de Lagardère Sport dans le cadre des négociations qu'il menait avec cette structure pour la commercialisation de certains droits de retransmission télévisée. En tout cas, c'est la version de la FIFA, Élisée. Il faut dire qu'il y a une coïncidence troublante, hein, car cette sanction arrive après celle de l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, que la FIFA combattait, Élisée.
Lawal, c'est pratiquement une fin difficile pour Omari.
Oui, une fin difficile pour Omari. C'est vrai que ce scandale a continué pas véritablement avoir raison d'un certain nombre de personnalités de la CAF. Mais moi, je reste un peu sur ma faim par rapport à ces sanctions prises par la FIFA, parce que quand on regarde un peu aujourd'hui l'ossature de la fédération, de la Confédération africaine de football, il y a certains qui étaient de la délégation qui continuent d'être vice-présidents. Donc, c'est comme une chasse aux sorcières. On a pris les gros bonnets du système qu'on veut punir en exemple,
bah, et on laisse les autres. Sur une chaîne locale à Kinshasa.
Il s'est justifié, quoi qu'il dise, il est mêlé. C'est ce que la FIFA dit. Il ne veut pas faire appel de cette condamnation. Il y a que, fondamentalement, ils savent ce qui se passe à ce niveau-là. Mais la FIFA aurait pu élargir les suspensions, élargir les sanctions à tous ceux qui étaient concernés en son temps. Pourquoi laisser un certain nombre de personnalités de la CAF et mêler à ça? En poste, on lit Ahmad Ahmad a été évincé. Constant Marie a été évincé également parce qu'on lui a interdit de participer aux élections dernières ou à l'issue desquelles on a imposé Patrice Motsepe. Si fondamentalement on veut assainir le foot africain, il faudra qu'on balaye tous ceux qui étaient là et qu'on amène des hommes nouveaux.
On enchaîne avec les interclubs de la CAF et on connaît les affiches des finales de cette saison en Ligue des Champions. Al Ahly du Caire, vainqueur de l'Espérance de Tunis en aller retour, affrontera le 17 juillet à Casablanca les Sud-Africains de Kaizer Chiefs, tombeurs des Marocains du Wydad, et en Coupe de la Confédération, dont la finale aura lieu le 10 juillet à Cotonou. Eh bien, ce sera entre les Algériens de la JS Kabylie, qui ont facilement éliminé les Camerounais de Coton Sport de Garoua, et les Marocains de Raja, qui ont dû recourir au tir au but avant d'éliminer les Égyptiens de Pyramide. Amine, deux belles affiches en perspective, mais la déception, c'est bien le Wydad qui manquera la finale à domicile.
Je parlerai d'un bilan mi-figue mi-raisin pour les clubs marocains engagés dans les compétitions continentales. Le Wydad a échoué sur toute la ligne alors qu'il avait la possibilité de jouer la finale de la Champions League à domicile, battu à home par Kaizer Chiefs contre toute attente la semaine dernière sur le score d'un but à zéro sur un contre fulgurant de l'équipe sud-africaine. L'équipe marocaine n'a pas su renverser la vapeur en dépit des très nombreuses occasions qu'elle s'est procurées, par maladresse, par manque de concentration, l'équipe marocaine n'a pas su saisir cette opportunité. En revanche, le Raja, au bout du suspense, au bout de la nuit, a su tirer son épingle du jeu en finale de la Coupe de la CAF face à une équipe de Pyramides d'Égypte qui a fait déjouer la formation marocaine pendant 90 minutes à la recherche de la fatidique séance des tirs au but, où les Rajaouis se sont montrés un peu moins maladroits que leurs rivaux. Le Raja sera donc bel et bien présent à Cotonou avec l'ambition de renouer avec un trophée qu'il avait déjà remporté pour la dernière fois en 2018.
Ces deux compétitions des clubs qui pourraient être menacées par la création d'une Super Ligue africaine. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, l'a d'ailleurs confirmé à travers un communiqué publié sur le site de l'instance. Le Sud-Africain compte s'appuyer sur l'échec du projet européen pour ne pas commettre d'erreur. Amine Birouk, s'il s'était montré très discret à ce propos au moment de son élection, le président de la CAF est bel et bien ouvert à une Super Ligue en Afrique.
Il faut dire que cette idée n'a pas pour origine Patrice Motsepe, mais bien Gianni Infantino. Il l'avait exposé lors du comité exécutif de la CAF du temps du président Ahmed Araba en début 2020. Et visiblement, elle est remise au goût du jour par Patrice Motsepe. Il faudrait juste préciser que Gianni Infantino l'avait susurré à la voix de certains dirigeants du football européen, que ceux-ci l'avaient adopté, sans pour autant que l'instance fêtière du football du vieux continent puisse l'accepter, étant donné qu'elle pourrait reverser beaucoup plus d'argent à ses clubs dits fondateurs de la Super League. Il va falloir juste la situer dans le contexte du continent africain, faire en sorte qu'elle puisse ramener plus de recettes dans la mesure où, à part la CAN, toutes les autres compétitions sont déficitaires. Et visiblement, c'est ce besoin financier qui peut être le moteur pour accélérer la création de cette compétition. Il va falloir voir dans quelle mesure cette formule semi-fermée ou fermée sera adoptée. Et est-ce qu'elle n'aura pas raison de l'équité sportive et des victoires qui sont obtenues sur le terrain par des clubs bien plus modestes que ceux qui font aujourd'hui la loi sur notre continent.
Valdo, ce projet nécessite assez d'engagement. Est-ce que la CAF aura les moyens d'aller jusqu'au bout?
Élisée, je vois mal là où l'UEFA n'a pas réussi et que la CAF puisse se servir de cet échec pour corriger et prétendre réussir, connaissant les réalités et contraintes du continent en matière de football. Moutier et sa CAF ont d'abord besoin de stabiliser la gestion administrative de la Confédération africaine de football avant de se lancer dans une telle aventure. La CAF a plusieurs défis à relever sur le continent avant de tenter de copier un modèle qui a échoué dans sa mise en pratique. Qu'elle trouve d'abord et avant tout les vrais problèmes auxquels le football africain fait face avant d'avoir de telles prétentions et surtout qu'il ne faudrait pas se lancer dans une aventure sans en avoir des garanties d'aller avec jusqu'au bout, en tout cas pas ça. Est-ce la CAF ne peut pas réfléchir à autre chose propre à elle que de dire haut et fort que nous voulons nous servir de la Super League de l'UEFA, quoique le football reste le même, mais les réalités diffèrent. Regardez comment la CAF est en difficulté avec l'utilisation de la VAR.
Précisons que c'est en marge de ses 100 jours à la tête de la CAF que Patrice Motsepe a dévoilé ses intentions et à cette occasion. Il a aussi parlé de rendre la CAF plus compétitive et autosuffisante. Ahmedine Sy, le patron du football africain, est ambitieux.
Parfaitement, Élisée, le nouveau patron du football africain, Patrick Motsepe, est très ambitieux. J'ai eu la chance d'assister à un point de presse qu'il a tenu au Sénégal. C'était en marche de la finale de la Coupe d'Afrique de Bitchok qui s'est tenue au Sénégal. Et ce jour-là, j'ai eu à voir un président ambitieux qui compte marquer de son empreinte quand même la gestion du football en Afrique, et le bilan de ses 100 premiers jours le démontre, car le successeur d'Amad Damat est en train de se battre pour redorer le blason du football africain et de la CAF qui a été tenu par le comportement de ses dirigeants. C'est pourquoi il a publié une déclaration présentant les activités et changements de gouvernance afin de rendre le football africain plus compétitif auprès des sponsors. D'ailleurs, l'une de ses priorités, c'est de restaurer l'image de la Confédération africaine de football, et il a déjà eu à poser un acte en initiant un programme panafricain de football scolaire en attendant l'arrivée de la Super League en Afrique. Élisée.
Lawal, c'est fort quand il dit qu'il va rendre cette CAF plus compétitive et autosuffisante.
Plus compétitive et autosuffisante. On a entendu des présidents passés dire mieux que ça. Mais au final, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ce n'est pas parce que Patrice Motsepe est milliardaire sud-africain qu'il va mettre sa fortune au service de la CAF. Il ne pourra pas le faire. Et il y a des règles qu'on doit respecter. Et s'il veut rendre la CAF compétitive, il faudrait déjà qu'on commence par sanctionner les bêtises qu'on a constatées pendant les éliminatoires de la CAN, les Gambiens qui ont laissé dormir à la belle étoile les Gabonais. Et là, jusque-là, la CAF qui veut être compétitive n'a jamais rien dit. Les tests Covid, le feuilleton Sierra Leonais, béninois, qui a fini par accoucher de la qualification miraculeuse des Sierra Leonais pour la CAN.
On n'a pas géré par la FIFA et dire qu'on sera autosuffisant.
Non, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. C'est une profession de foi. Et il n'aura pas les moyens de sa politique. Il a beau être milliardaire, mais on n'a pas les moyens de se rendre autonome, de se rendre autosuffisant au niveau de la CAF, quand on sait que les meilleures décisions, les plus grosses décisions qu'on prend à la CAF, émanent de la FIFA. Et si on n'a pas pu faire un certain nombre de choses par rapport à cette CAF, ce n'est pas maintenant qu'on va le faire. C'est vrai qu'il ait cette ambition, c'est bon qu'il ait cette ambition, mais fondamentalement, je crois qu'à la fin, on verra qu'il ne pourra rien faire parce que le système est tel que quand quelque chose doit changer, on fait tout pour bloquer.
On l'a d'ailleurs vu avec Ahmad. On termine cette émission avec les Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. À moins d'un mois du début de la compétition du 23 juillet au 8 août, certaines délégations ont commencé par fouler le sol japonais. Le cas du Bénin, Lawal. Les regards seront tournés beaucoup plus vers Noélie Yarigo au 800 mètres, Odile Aranwanu en étape talon et le judoka Celtus Dosuyovo.
Oui, Élisée, les seuls athlètes béninois qui ont pignon sur rue aujourd'hui, ce sont les trois que vous avez cités. C'est déjà bien que le Bénin, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, puisse participer de façon consécutive à une telle compétition, parce que Nori Arrigo était aux dernières Jeux Olympiques où elle a même été qualifiée pour les demi-finales. Et la suite, on la connaît. Et Odile Aranwanou, championne d'Afrique de l'heptathlon. Donc, c'est les espoirs béninois à ces Jeux Olympiques. On espère qu'ils feront bonne figure là-bas avec le judoka qui également est en train de monter.
La bonne nouvelle, c'est que le Bénin aura 5 athlètes, contrairement aux années antérieures.
Oui, c'est déjà heureux. 5 athlètes pour représenter le Bénin à ces Jeux Olympiques, c'est déjà bien. Par le passé, ils n'en avaient pas autant, et s'ils en ont jusqu'à ce niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait. On doit pouvoir tirer chapeau à tous ceux qui, dans l'ombre, font ce travail-là. Mais le plus important, comme le baron de Coubertin l'a dit, c'est de participer. Mais il faudra que les athlètes africains qui vont à ces Jeux Olympiques puissent montrer qu'ils ne viennent pas justement seulement pour participer, mais pour faire sensation et montrer que eux aussi, ils peuvent véritablement aller plus haut, plus fort et plus loin.
Oui, merci Lawal. En attendant, les qualifications se poursuivent en Afrique et ce sera sans les Kenyans Conselcius Kiproto et Timothy Cheruiyot. À Médine, les deux stars de la course de fond n'ont pas réussi à se qualifier lors des sélections dans leur pays.
Tout à fait, Élisée. C'est vraiment dommage, hein, car ces deux athlètes pouvaient vouloir beaucoup de satisfaction, non seulement à leur pays qui est le Kenya, mais aussi au continent africain. Ça, c'est Élisée que Conselius Kiproto est le champion olympique du 3000 mètres cibles et il est également le double champion du monde. Mais sa préparation a été perturbée par des accusations d'agression sexuelle portée contre lui par une jeune fille de 15 ans quand au champion du monde de 1500 mètres Timothée, il rate aussi les Jeux Olympiques car il a terminé à la 4e place. Élisée.
Pour les sports collectifs, notamment le beach volley, c'est à Rabat au Maroc que s'est joué les qualifications. Amine, et après une semaine de compétition, les deux qualifiés sont connus.
Le beach volley marocain sera bien évidemment convié à disputer les Jeux Olympiques, au moins dans sa facette masculine, après la victoire des deux doublettes marocaines face à leurs rivaux du Mozambique en finale de la Continental Cup. Deux victoires qui ont été très difficiles à arracher, mais qui permettent au Maroc d'entrer dans l'histoire de la discipline sur le plan continental. Côté féminin, c'est le Kenya qui représentera notre continent, après avoir battu en finale le Nigeria. Les Kenyans avaient réussi la prouesse de vaincre le duo marocain, qui était soutenu par un nombreux public à Agadir et qui n'a pas su résister à la pression. En tout cas, deux représentants qui auront pour mission de bien figurer pendant l'édition olympique de Tokyo, d'autant plus que l'Afrique a un gros chantier au niveau du volleyball, que ce soit indoor ou en beach volley, et c'est la mission à laquelle devra s'acquitter la nouvelle présidente de la Confédération africaine de volleyball, Bouchra Hajij, marocaine, qui, vu son réseau international, vu ses connaissances également, est appelée à aider à cette remise à niveau du volleyball continental.
Valdo, le Congo n'était pas entré en lice, mais les joueurs étaient pourtant à Rabat. Que s'est-il précisément passé?
Élisée, les léopards beach volley de la République démocratique du Congo dans les deux versions se sont retrouvés dans une situation très compliquée due notamment à la COVID-19 puisque n'ayant joué aucun match de ses qualifications pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, les tests COVID à Rabat ont privé aux athlètes de la RDC cette épreuve alors qu'ils s'étaient bien préparés pour et avec précaution tenant compte des réalités de cette pandémie. Il est connu de tous qu'à chaque frontière entre deux pays, les tests sont obligatoires, malgré les tests passés en RDC. Ceux passés à Rabat qui se sont avérés négatifs, les Congolais ont dû passer un autre test pour un énième contre-expertise dont les diagnostics n'ont pas permis à l'organisateur de donner avis favorable aux athlètes de la RDC de prendre part à ces épreuves. Situation déplorée par la Fédération de volleyball du Congo puisqu'ayant obtenu de ces athlètes toutes les garanties nécessaires tant sanitaires que physiques avant leur déplacement pour Rabat.
Merci.
beaucoup, Valdo. Allez, Sporama qui s'achève. Merci de l'avoir suivi un peu partout sur le continent, en bande FM, sur le bouquet Canal Plus, numéro 655, ou encore sur notre site internet www.voaafrique.com. Le suivi de l'actualité sportive, c'est aussi sur nos différents réseaux sociaux. Au revoir.